Le sonneur de Garlan, un conte par Anatole Le Braz. C'est une vieille petite paroisse, là-bas, au fond du pays morlésien, dans la direction de la mer, sur le versant méridional de la combe du Dourdu. Une ceinture de collines l'enveloppe et l'isole. Elle est là, comme nichée dans un creux de verdure, à l'écart des routes passantes. N'était la pointe aiguë de son clocher, n'était surtout les gracieux carillons qui s'en échappent aux dimanches et jours de fête gardés, rien ne révélerait au monde son existence. Son joli nom de Garlan lui vient, à ce qu'il paraît, d'un vieux saint oublié dont vous chercheriez vainement la vie dans le propre du diocèse. De la mémoire même de saint Garlan, il ne subsiste que ce dicton « An otro sant Garlan, are cleier a urgan bluntolan », ce qui veut dire « Monseigneur saint Garlan fabriquait des cloches d'or avec les fleurs de la jonc ». D'où il est permis d'inférer qu'il goûtait fort ce genre de musique et que les garlantés lui doivent, pour une bonne part, la tradition des belles sonneries qui est toute la gloire de leur bourgade. Cette bourgade se compose au total de l'église, du presbytère, de l'école mixte et d'un chapelet de maisons basses égrenées autour du cimetière qui promène sur leurs antiques chaumes moussus l'ombre dense de ses grands ifs. Dans l'une d'elles, que voile à demi une épaisse touffe de sureau, habitait il y a quelque 50 ou 60 ans Agapi Quesseveur, plus souvent désigné par le sobriquet affectueux de Gapi, abréviation de son étrange prénom. Il avait commencé tout adolescent par entrer en apprentissage à Morlaix. Morlaix, la ville des cigarières, est aussi, comme chacun sait, la capitale des tonneliers. Dans la profondeur des hautes bâtisses moyenâgeuses de la rue des Nobles ou de la rue des Archers se creusent des espèces d'arrière-cours où les sombres maçonneries qui les encadrent entretiennent une constante humidité de sépulcre et ne laissent pénétrer qu'un filet de jour spectral tombé du mince hublot de ciel que découpent les toits en surplomb. Des ombiliques, des scolopendres, de frêles fougères d'eau accrochent leur végétation malade aux parois suintantes des murs. L'odeur aigre des vieilles murailles, entassée sur un dallage toujours gras d'une boue noirâtre, s'y mêle aux moisies des siècles, aux relents de décomposition qui s'exhalent, des caves souterraines, glaciales et putrides comme des égouts désaffectés. 5-6 années durant, Gapi Quesseveur avait besogné, en qualité d'apprenti tonnelier, dans une de ces basses fosses, et déjà le bruit courait à Garlan qu'il allait recevoir une paix de compagnon, avant même d'avoir atteint l'âge de la conscription. Lorsqu'un après-midi de septembre, vers l'époque de la foire haute, on l'avait vu rentrer au village en charrette, allongé sur une botte de paille, et si différent de lui-même qu'il en était devenu méconnaissable. Vous eussiez dit son fantôme. Il avait fallu le descendre de la voiture et le transporter à bras jusqu'à son lit, comme un blessé, comme un moribond. Longtemps il était demeuré dans l'impossibilité de se mouvoir. Les membres travaillaient d'un mal secret qu'une rebouteuse mandée de Plougasnou avait déclaré sans remède. Cela lui était arrivé tout d'un coup, sans qu'il sût comment. Une nuit, il avait rêvé qu'on lui sciait les os, et le lendemain, il avait constaté avec épouvante que ni ses jambes, ni ses mains ne lui obéissaient plus. Le sentiment unanime fut qu'il y avait du surnaturel dans son cas. Les gens de la ville avaient dû lui jeter un sort. Sa mère, veuve et qui de 4 enfants n'avait conservé que lui, le soigna du mieux qu'elle put avec des onguents de bonne femme, des oraisons compliquées et des pèlerinages aux sanctuaires les plus réputés de la région, particulièrement à Notre-Dame du Relec, dont elle balaya la chapelle, selon le rite, par 3 lundis consécutifs. Au bout de quelques mois de ce régime, et sa jeunesse aidant, Gapi Quesseveur se rétablit. Il se rétablit, mais resta chétif et contrefait, la taille comme cassée en deux par le milieu des reins, les épaules déviées, le col infléchi en avant du torse, objet d'étonnement et de commisération pour les personnes de son voisinage que déconcertait toujours un peu l'inquiétante anomalie de cette tête de jeune homme sur ce corps de vieillard. Il fut des semaines sans se risquer hors du courtil familial. Son infortune lui pesait comme une honte. Le recteur lui apportait de temps en temps les consolations d'usage. « Il n'est que de se soumettre à la volonté de Dieu, mon enfant. » Il hochait la tête, murmurait « N'empêche que je serai toujours impropre à rien. » Mais ce n'était pas cette pensée dont il souffrait le plus. Il y en avait une autre tout au fond de lui qu'il n'eût jamais avouée, pas même en confession à l'article de la mort, et qui la nuit le tenait éveillé de longues heures à sangloter, sangloter sans fin, la face enfouie dans son traversin de balles d'avoine. Peu à peu, cependant, il prit sur lui de sortir, de se montrer, et pour n'être pas complètement à la charge de sa mère, Gritta la veuve, dont les ressources étaient plus que modestes, il se procura quelques vagues besognes domestiques comme défibrer du chanvre ou de tailler du lin. Bientôt, s'aguerrissant, il porta ses services dans la bourgade, là où il ne s'agissait que d'un petit coup de main à donner. On le vit à la forge tirer le soufflet, chez le sabotier affûter les tarières et les gouges, à l'église cirer le chœur ou ranger les chaises autour des piliers sous la direction de Janoux le sacristain. Mais surtout les jours de baptême ou d'enterrement, doubler Justin l'issy-lourd, le sonneur pour carillonner les tédéum ou marteler les glas. Les cloches lui étaient des amies et des confidentes. Elles accueillaient sa peine et la berçaient en l'étourdissant. À exercer ainsi sa faiblesse, il lui sembla que les forces lui revenaient. Il rêva d'une résurrection possible. L'espoir, le désir violent de la santé ranimaient ses énergies éteintes. Un dimanche de juillet, il alla jusqu'à se faire beau, comme avant sa maladie, et parut à la grand-messe. Il crut remarquer pendant l'office qu'on ne le regardait plus avec les mêmes yeux de commisération. Ce fut chez lui plus que du soulagement, presque de l'orgueil. Dans le cimetière, à l'issue de la cérémonie, il se mêla au groupe des autres jeunes hommes, ses camarades d'antan, échangea des bonjours avec des figures de sa connaissance, s'enhardit à ne point détourner la tête lorsque les jeunes filles débouchèrent du porche pour se répandre parmi les tombes. Une d'elles, l'apercevant, vint à lui. « Dieu merci, vous voilà sur pied, Gapi Casseveur, » dit-elle d'une voix joyeuse dont le timbre le pénétra jusqu'au moelle. « Oui, Jeanne-Louise, » balbutia-t-il. Ce fut tout ce qu'il put répondre. Il se tenait devant elle, pâle, la gorge sèche, tout son sang formant une boule dans son cœur étranglé. Alors Jeanne-Louise fut comme gênée, elle aussi, et feignant de chercher quelqu'un des yeux dans la foule, elle jeta d'un ton rapide où perçait une légère nuance d'embarras. « Puisque vous êtes bien à présent, si vous passez à notre porte, entrez boire un verre de cidre, n'est-ce pas, Gabi ?» Il répondit pour la seconde fois. « Oui, Jeanne-Louise. » Déjà, elle s'éloignait par une allée transversale. Il vit son châle vert et sa coiffe blanche s'effacer derrière les ifs. « Puisque vous êtes bien à présent, » avait-elle dit. Oh, comme il eût voulu courir après elle, la saisir par le bas de sa robe, lui crier les mains jointes, « Ayez pitié, Jeanne-Louise, il n'est pas pire souffrance que d'aimer. » Il avait connu Jeanne-Louise Mével sur les bancs du catéchisme. Ensemble, ils avaient fait leurs trois communions, et bien souvent, sous le prétexte de chercher des nids, ils l'avaient accompagnée avec d'autres fillettes du même parage le long du chemin creux qui menait du bourg à la tenue du Kergoz, où, depuis des générations, les Mével étaient fermiers. Leurs deux pères avaient été liés d'une vieille amitié de régiment. Lorsqu'à 13 ans, Gapit avait perdu le sien, Pierre Mével, qui portait la croix à l'enterrement, avait proposé à la veuve de prendre l'orphelin chez lui comme gardeur de vaches, si toutefois il se sentait du goût pour les travaux de la terre. « Mais voyez-vous, avait-il ajouté, il n'y a plus grand-chose à faire de ce côté-là si ce n'est miséré. À la place de votre garçon, qui est intelligent et qui a de l'école, moi j'irai en ville quérir un gagne-pain, sinon moins fatigant, du moins plus profitable. » À l'appui de son dire, il avait cité l'exemple d'Yvon Scollan, celui qui fut valet de charrue chez les ports en parc. Un beau matin, le gaillard avait planté là le soc, secoué à la lisière du champ la glèbe de ses sabots, et joué des jambes vers Morlaix, muni de 4 sous qu'il avait en poche. Il y est aujourd'hui maître tonnelier, possède pignon sur rue et de bons biens au soleil. Comme il était du cousinage de ma défunte femme, je peux, si vous en êtes d'avis, lui toucher un mot au sujet de votre garçon. La tonnellerie est un métier qui va toujours. D'ailleurs, qu'est-ce qui empêchera Gapi, son apprentissage terminé, de s'établir à Garland? Dans un terroir à pommes comme est le nôtre, ce n'est sûrement pas l'ouvrage qui lui manquera. Ce dernier argument avait eu raison des répugnances de Gritta Casseveur à se séparer de son fils. Gapi, lui, eût préféré paître sa vie durant les troupeaux de Pierre Mével, sans autre gage que la nourriture, pourvu qu'il lui fût accordé de la prendre à la même table que sa petite amie de catéchisme. Mais le fermier de Kergoz, gouverneur de la fabrique paroissiale, était un de ces hommes considérables dont on ne discute point les oracles lorsqu'ils vous font l'honneur de s'intéresser à vous. Séance tenante, il avait été décidé que l'orphelin s'expatrierait. « Quand tu en seras à gagner tes 3 francs par jour, repasse au Kergoz, » lui avait dit Pierre Mével, en guise de revoir. « Si à ce moment-là, Tu aimes encore à dénicher les oiseaux, il y aura peut-être par ici une tourterelle pour toi. » Il avait suffi de cette phrase pour dissiper la mélancolie de Guppy Quesseveur. Il était parti le cœur vaillant, son mince baluchon d'exilé sur l'épaule, roulé dans un mouchoir de coton bleu. Il était parti, et voilà qu'il était de retour, hélas. Non pas lui, mais la ruine de ce qu'il avait été, et qui pisait une ruine où s'était enraciné, d'autant plus vivace, son premier, son unique amour d'enfant. Car il l'avait toujours aimé, éperdument aimé cette jeune Louise Mével, et c'était de l'aimer désormais sans issue, qui faisait sa torture intime, son vrai mal. Jamais il ne les gagnerait les 3 francs par jour, jamais elle ne serait pour lui la tourterelle du Kergoz. Quelle apparence en effet que Pierre Mével! Et pourquoi pas, après tout? Est-ce que sans lui, sans son conseil funeste, Guppy Quesseveur ne serait pas à cette heure un homme comme les autres, mieux tourné et plus capable que beaucoup d'autres? N'était-ce pas sur les instances du fermier et pour mériter Jeanne-Louise qu'il s'était précipité au-devant de son mauvais destin? Alors, on a beau régner en maître au Kergoz, il faut tout de même compter avec sa conscience de chrétien, et celle de Pierre Mével n'était certainement pas sans lui répéter « Tu avais naguère promis ta fille à Guppy comme une récompense. Tu la lui dois aujourd'hui comme un dédommagement. » Ainsi ruminait l'infortuné en regagnant le logis après la scène du cimetière. L'élan de Jeanne-Louise vers lui l'avait comme soulevé au-dessus de lui-même. Non, décidément, tout n'était pas désespéré. Eût-elle témoigné une joie si sincère de le revoir sur pied, comme elle avait dit, si, à son exemple, elle n'était demeurée fidèle à leurs sentiments d'autrefois? L'eût-elle prié à se désaltérer au Kergoz, ne fût-ce qu'en passant, si le spectacle de sa disgrâce physique lui avait inspiré quelque aversion? Et au surplus, pourquoi ne s'en irait-elle pas comme elle était venue, cette disgrâce? Pourquoi ne réussirait-il pas à la vaincre? Pourquoi ne redeviendrait-il pas la belle plante humaine, robuste et droite qu'il était hier encore, avant que l'humidité des cavernes mourlésiennes n'eût aigri sa sève et noué ses rameaux? Qui veut peut? Et il avait une telle envie, une telle fureur de vouloir. En lui-même, il se jura, le Guppy Quesseveur qui reprendra le chemin du Kergoz n'aura plus la tête sur le côté ni le corps de travers. Le soir, Grita disait à Philomène Janou, la femme du sacristain, sa voisine, « Écoutez-le, j'ai idée que c'est la vertu de la grand-messe qui opère en lui. » Dans l'ombre odorante du sureau, devant le couchant doré que fauchaient des vols d'hirondelles, Guppy fredonnait en sourdine l'air du Jabadav, qui est la danse des noces au pays de Garland. À 4 ou 5 mois de là, dans le courant de l'hiver, comme le fils et la mère achevaient de souper au coin de l'âtre, un grêle tintement de clochette au dehors les fit tressaillir. « Le bon Dieu qui va chez quelqu'un !» soupira la veuve en se signant. Elle supputait encore chez qui ce pouvait être quand, brusquement, la porte s'entrebâilla. « Guppy !» cria du seuil une voix qu'ils reconnurent aussitôt pour celle du recteur. Effectivement, messire Guéguin, le desservant de la paroisse, se tenait sur le pas de l'entrée revêtu de son surplis. Grita s'empressa de lui pousseter une chaise avec son tablier. « Non, non, » protesta-t-il, « je ne m'assieds pas. Un mot seulement, je viens d'administrer Justin l'Issilour. » Le jeune homme ne put retenir une exclamation désolée. « Quoi ? Justin ? Justin le sonneur ?»« Oui, un coup de sang, c'était un excellent serviteur, mais il buvait trop. Je lui avais toujours prédit qu'il finirait comme ça. Dieu lui a tout juste laissé le temps de se repentir et de te recommander à moi pour son successeur. D'après lui, tu es doué comme pas un pour les cloches. S'attirait-il de les avoir à sonner ?» Avant que Guppy eût ouvert la bouche, sa mère avait déjà répondu. « Pouvez-vous le demander? Dites que jamais il n'aurait osé rêver une pareille bénédiction. » De fait, c'était l'avenir assuré. Sans être lucrative, la fonction rapportait, bon an, mal an, une pièce de 400 livres. Car si les émoluments fixes étaient insignifiants, il y avait le casuel, il y avait surtout les quêtes à domicile. « J'ai de quoi faire vivre un ménage, » se dit Guppy Quesseveur, comme il rentrait chez lui, le surlendemain, après s'être essayé à sa première grande sonnerie, pour les funérailles de Justin l'Issilour. Il fut très vite un incomparable sonneur. La souffrance avait affiné ses nerfs, et comme éveillé en lui des sens d'artiste. Il s'était pris d'un culte pour ses cloches. Il conversait avec elles, comme avec des esprits de l'air, s'initiait à l'âme multiple enfermée dans leur métal, s'appliquait en toute occasion à tirer d'elles des accords inentendus. Ne dirait-on pas qu'il les fait parler? Et dans le langage des anges encore, s'écriaient au jour de fête les gens de Garlan, émerveillés. C'était vrai, à la lettre. Mais lorsque Jeanne-Louise Mével était de grand-messe, elle ne parlait pas seulement, elle chantait, elle s'égosillait, elle s'exaltait en un prestigieux épanouissement d'harmonie. La grosse cloche, surtout, qu'on appelait le salve, roulait des vibrations si pleines et si profondes qu'elle semblait le bruit d'une mer aérienne déferlant aux grèves de l'espace. Ainsi, Gapi Kesever, par les voix retentissantes du bronze, publiait à tous les vents le secret d'amour qu'il ne pouvait ni garder pour lui seul, ni partager avec un autre humain. Adossé au mur du porche, sous les cloches encore agitées d'une ondulation serpentine, il demandait à Jeanne-Louise, quand elle sortait parmi ses compagnes à l'issue de l'office, « Avez-vous trouvé que c'était bien aujourd'hui ?»« Très bien, Gapi, admirablement bien, » répondait-elle avec un joli mouvement de tête qui ramenait dans l'esprit du jeune homme l'image de la tourterelle. Le printemps arriva. Les premières verdures hésitantes tissèrent leur trame encore fragile aux cimes du pays boisé. C'était l'usage de la paroisse que le sonneur fit dans la semaine sainte l'une des deux quêtes auxquelles il avait droit, celle qu'en raison du temps pascal on nommait la quête des œufs. Gapi Kesever s'était promis de renoncer à la sienne plutôt que de se présenter à son désavantage chez les hôtes du Kergoz. Mais à se balancer pendant des mois, suspendu au câble des cloches, quelque chose de leur élasticité s'était comme insinué dans ses membres. Les nœuds de ses reins et de son échine s'étaient relâchés. Une sève vivante sourdait confusément jusque dans les parties les plus desséchées de son être. Dès le lundi des rameaux, il se mit donc en route, et les trois jours qui suivirent, on ne rencontra plus que lui par les petits chemins accidentés, aux talus fleuris de jonquilles et de primes verts, ou sur les sentiers frayés d'une ferme à l'autre, dans le vert tendre des blés naissants. Il allait de seuil en seuil, partout salué d'une parole de bienvenue, partout comblé de rustiques offrandes. Le jeudi soir, cependant, il n'avait pas encore approché du Kergoz. Plus d'une fois, il s'était arrêté au sommet des collines avoisinantes pour contempler avec un singulier mélange de plaisir et d'angoisse les fines cheminées anciennes blanchies à la chaux qui, pareilles à des amers, dominaient la houle des jeunes feuillages. Il aspirait de toute son âme vers ce logis, et néanmoins reculait sans cesse l'instant pour lui si décisif où il en franchirait la porte. Enfin, le vendredi saint, il s'arma de courage. Il faisait une matinée radieuse, exquisement tiédie par les haleines du large, un ciel délicat où des nuages roses s'éparpillaient comme des pétales de fleurs, un vrai printemps de fiançailles. Dans la cour du manoir, le sonneur croisa Jeanne-Louise qui se dirigeait vers les étables avec un fait de luzerne mouillé entre ses bras nus, les manches retroussées au-dessus des coudes. « Ah, c'est vous, Gabi, » dit-elle. Et laissant glisser la provende qui s'étala comme un flot d'émeraude à ses pieds, elle le précéda dans la maison. Pierre Mével, assis à la grande table de la cuisine, déjeunait d'une tranche de pain de seigle graissée de lard. Il essuya sa main droite à son genou et l'attendit au visiteur. « Bonjour, » prononça-t-il, « prends place vis-à-vis de moi et mange. Toi, fille, apporte-nous du cidre frais. » Il en versa deux pleines écuellées. « À ta santé, mon gars, je commençais à croire qu'on ne te verrait plus au Kergoz. » Gapi, qui s'apprêtait à boire, redressa la nuque pour répondre « Ce n'est pas l'envie qui m'a manqué. J'ai eu beaucoup de chagrin, Pierre Mével. Oui, je sais, ta maladie, tu n'as vraiment pas eu de chance. Nous le disions encore ces temps derniers, n'est-ce pas, Jeanne-Louise ?» Cette allusion à sa maladie, faite sur un ton d'apitoiement banal et devant celle qu'il aimait, blessa au vif la fierté du jeune homme. Il protesta presque avec véhémence. « Je n'ai plus de mal nulle part, et pour la moisson d'août, je serais aussi gaillard que si je n'avais jamais été souffrant. C'est le recteur qui me l'a dit, » ajouta-t-il plus doucement, non sans rougir un peu de ce mensonge. « Dieu le veuille, » articula le fermier, « et après tout, il n'y a rien dont on ne puisse guérir à ton âge. » Mais dans ses yeux se lisait l'incrédulité qui était au fond de sa pensée, et toute son attitude trahissait le mépris inconscient du campagnard robuste pour l'infirme. Il y eut un silence pénible. La jeune fille, par compassion pour son ami l'autre fois, intervint. « Ce qui est sûr, c'est que vous êtes le contraire d'un manchot. Jamais il n'y avait eu encore à Garlan de sonneur tel que vous. Cela, il n'y a qu'une voix dans la paroisse pour le déclarer. » Les prunelles de Gapi Kesever brillèrent d'un éclat reconnaissant. « Oui, n'est-ce pas que mes cloches m'obéissent ? » s'écria-t-il. « Comme des servantes, à la vérité. » Pierre Mével avait quitté son banc. on entendit grincer un battant d'armoire dans la pièce voisine. Quand le fermier reparut, il tenait entre ses doigts une pistole, un jaunet de 10 francs, qu'il voulut déposer ostensiblement dans la paume du sonneur. « Tu sais, il y aura l'appareil pour toi à chacune de tes quêtes, » fit-il avec une cordialité un peu emphatique. Mais Gapi, au lieu d'avancer la main, l'avait fourré dans sa poche. « Hein, tu refuses ?» balbutia le paysan interloqué. Le sonneur s'était levé. Par une tension farouche de sa volonté, les poings cramponnés au rebord de la table, il s'érigeait presque droit. Ses yeux, dont le bleu-gris s'était soudain foncé jusqu'au noir d'encre, s'attachèrent ardemment sur la jeune fille. « Jeanne-Louise, » prononça-t-il avec lenteur, « c'est de vous seule que je requiers mes œufs de Pâques. Répondez-moi, s'il vous plaît, selon votre sentiment. Vous serez ou ma vie ou ma mort. Sans vous, rien ne m'est rien, et ce que je suis venu vous quémander, c'est vous-même. Dites-moi d'un mot, d'un signe, si c'est oui ou si c'est non. » L'héritière avait écouté ce discours, les lèvres entr'ouvertes, comme frappées de stupeur, n'osant comprendre. Chez Gapi Quesseveur, tous les ressorts de la machine humaine s'étaient arrêtés. Il attendait dans une immobilité tragique la réponse de la jeune fille. Enfin, n'en pouvant plus, « Jeanne-Louise » implora-t-il d'un accent de supplication passionnée. Jeanne-Louise le regarda, défit puis renoua d'un geste automatique les cordons de son tablier à ramage, et courut se cacher au bas-bout de la maison, prise d'une sorte d'affolement subi, traquée par une mystérieuse épouvante. Gapi Quesseveur gagna la porte, les jarrets vacillant comme ceux d'un homme ivre. En retraversant la cour, il aperçut à terre devant lui la jonchée de luzerne que Jeanne-Louise, au moment de son arrivée, avait laissé choir. Dans son égarement, il en ramassa une poignée et se mit à la mordiller, à la mâchonner tout le long de la route, comme ces insensés de la fable que le délire d'amour métamorphosait en bête. Le samedi saint, veille de Pâques, après les 2 jours de funèbre silence, par lesquels la chrétienté commémore le trépas du Rédempteur, les cloches, on le sait, reviennent de Rome avec une âme toute neuve pour sonner la grande allégresse de la résurrection. C'est un retour impatiemment guetté par les gamins des bourgades bretonnes. On leur racontait que les mystiques voyageuses rentrent bourrées de dragées pontificales. Il n'est que de se coucher sur leur passage, le ventre en l'air, la bouche ouverte et les yeux clos, pour recevoir à la volée en pluie de sucre la manne qu'elles répandent avec leur son. Aussi, bien avant l'heure sacramentelle, toute la polissonnerie de Garland était-elle attroupée sur la place, épiant le départ du sonneur pour l'église. Garçonnet et fillette l'acclamèrent dès qu'il se montra. Du temps de Justin Lissilour, il n'avait éprouvé que des déceptions. Les cloches avaient beau revenir de Rome, nul dragée ne s'échappait de leur flanc. C'était apparemment que Justin Lissilour ne s'entendait pas les faire tomber. Il était trop vieux. Mais avec Gapi Quesseveur, on pouvait reprendre confiance. Des averses de bonbonnerie pascale allaient pleuvoir. « C'est le jour de sonner ta plus belle sonnerie, hein, Gapi ?»« Vous ne croyez pas si bien dire, les enfants ?» répondit le jeune homme en fendant la bande piailleuse qui se rua vers le cimetière sur ses talons. Il souriait d'un sourire étrange et triste. Son corps semblait plus déjeté que de coutume, ses épaules plus inégales, comme si l'ancien mal l'eût ressaisi. Quand il pénétra sous la voûte du porche, où pendaient les câbles désœuvrés des cloches, les galopins, déjà étendus de leur long sur le tertre des morts, lui crièrent d'une seule voix. « Tire dessus, tire ferme, Gapi !» Lui, cependant, ne faisait pas mine de vouloir commencer. À leur grand étonnement, ils le virent qui, au lieu d'empoigner les cordes, s'engageait dans les 3 escaliers de la tour. « Tiens, « pourquoi donc grimpe-t-il là-haut ? » demanda quelqu'un. « Je parie que c'est pour mieux sonner, » suggéra Doric Mélégant l'acolyte. Ils écoutèrent les pas de Gapi Quesseveur monter, se perdre dans la sombre spirale de pierre. Peu après, sa silhouette se dessinait en noir à travers le balustre ajouré de la galerie des cloches, et tout aussitôt les 3 battants entrèrent en branle. Doric Mélégant avait touché juste. Ce devait être en effet pour mieux sonner que Gapi Quesseveur avait adopté cette manière nouvelle, car... jamais, de mémoire d'homme, les oreilles des paroissiens de Garland n'avaient ouï musique aussi miraculeuse. Cela tenait à ce point du prodige que le recteur lui-même avait interrompu la lecture de son bréviaire et déserté la tonnelle de son jardin pour venir, au milieu de la bourgade, béer à cet ensorcelant carillon. C'était comme un cœur céleste déployant des milliers d'ailes immenses dans l'azur. Tout le cri de l'espérance humaine ressuscité, tout l'alléluia de la création rendue à la lumière, à la chaleur, à l'amour, palpitaient magnifiquement sur le monde en des accords à la fois puissants et doux, d'une amplitude et d'une suavité sans égale. Les commères, extasiés, ne savaient que joindre les mains sous le menton. Messire Guéguin songeait. Feu Justin Lissilour ne m'avait pas trompé. Il a décidément le don, ce Gapi. C'est aussi émouvant que le cantique des cantiques. Mais à l'admiration succéda brusquement la peur. L'hymne triomphal s'était changé en une sorte de plainte pesante, de gémissement solennel. Peu à peu, les coups s'assourdirent, s'espacèrent. Ils tintaient le glas. Maintenant à un glas, d'une tristesse inexprimable, lourd de larmes, tout gonflé de sanglots. Puis il y eut une pause lugubre, suivie d'un vaste soupir d'agonie, où l'on eût dit que l'âme de la grosse cloche s'exhalait. Toute la bourgade en désarroi s'interrogea des yeux avec anxiété. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? On eut le pressentiment de quelque chose de funeste, peut-être d'irréparable. « Jeannot, à la tour !» commanda messire Guéguin au sacristain. Celui-ci hésitait. Deux paroissiens de bonne volonté, le maréchal Ferrand et le charpentier, lui offrirent leur concours. Pendant une dizaine de minutes, qui parurent des siècles, on vit les trois ombres s'agiter confusément dans la chambre des cloches, sous les gueules de bronze encore frémissantes. Après quoi, Pennec, le charpentier, penché sur le rebord extérieur de la galerie et les mains en porte-voix, cria « Monsieur le recteur, montez, montez vite, il est besoin de vous !» Messire Guéguin s'élança vers le porche, aussi précipitamment que le permettait son âge et, pour la première fois de sa vie depuis qu'il était recteur de Garlon, escalada les 86 marches qui menaient au couronnement de l'édifice. Il était tout haletant quand il déboucha sur la plateforme. « Eh bien, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Où est Capi ?»« Il y a qu'il a voulu se périr, le pauvre. Voyez, » dit Jeannot, qui avait lui-même la couleur livide d'un cadavre. Les deux autres s'écartèrent et découvrirent au prêtre le corps du sonneur allongé sur le dos, la tête appuyée à l'un des contreforts de la flèche. La figure était toute marbrée de plaques bleuâtres. À la commissure des lèvres, quelques gouttes de sang avaient perlé. « Le malheureux !» murmura messire Guéguin, d'un ton où le blâme s'attendrissait de pitié. Le maréchal a été obligé de couper la corde de la grosse cloche presque au ras du levier, reprit la voix dolente du sacristain. Le dommage n'est pas considérable, car elle n'était plus neuve, ajouta-t-il par manière d'excuse, dans la crainte sans doute que le desservant ne lui fît reproche d'avoir laissé détériorer le bien de l'église. Le maréchal ne pouvait pas donner une plus belle preuve d'intelligence, dit messire Guéguin non sans vivacité. Il s'était agenouillé auprès du sonneur et d'un doigt preste avait dégrafé les vêtements, arraché le bouton de la chemise de chanvre, mis à nu la poitrine, d'où un papier glissa auquel personne ne prit garde. « Aidez-moi à l'appuyer ici, contre cet arc-bouton. Tous ces curés des campagnes bretonnes sont par nécessité médecins des corps en même temps que des âmes. À palper la dépouille inerte de Gapi Quesseveur, messire Guéguin avait eu la satisfaction de constater que la peau était encore tiède, que les vertèbres de la nuque jouaient normalement, que les muscles avaient conservé leur souplesse. Il s'empressa d'exécuter toutes les manœuvres prescrites en pareil cas. Les autres le regardaient faire, immobile et plein d'un trouble superstitieux, persuadés en leur fort intérieur que c'était là quelque opération de magie. « Vous verrez qu'il va le rappeler d'entre les morts, » chuchota le sacristain. Et presque aussitôt, en effet, le travail de la résurrection commença. Le frisson de la vie parcourut les traits du sonneur. Les paupières battirent. La gorge eut une aspiration éperdue, comme pour boire d'un seul coup toutes les puissances régénératrices éparses dans le vent printanier. « Te Deum Laudamus !» proféra le prêtre rayonnant. Il tira de la poche de sa soutane un cordial qui ne le quittait jamais et en versa quelques gouttes entre les lèvres de Gapi. Celui-ci ouvrit les yeux, les promena deux ou trois secondes au-dessus de lui vers les cloches dont les reins grondaient mollement à la caresse sonore de l'air vif, puis les referma d'un clignement brusque, sans doute terrassé par une nouvelle syncope. « Il va falloir le descendre en douceur, » dit messire Guéguin. « Nous le sauverons, je l'espère. » Puis s'adressant au sacristain, « Sage à nous, est-ce qu'il aurait eu quelques contrariétés au cours de sa quête par hasard ?»« Pas que je sache, monsieur le recteur. Quelle raison a-t-il donc pu avoir, selon vous, d'attenter ainsi à ses jours ?»« Si vous voulez mon idée, » fit à mi-voix le sacristain, « Gapi, depuis que vous l'avez nommé sonneur, n'était plus naturel. Quoi, qu'est-ce que vous avez remarqué chez lui de pas naturel ? » Jeannot se frotta le bout du nez. Son amour pour ses cloches, monsieur le recteur, car elles étaient devenues les siennes et non plus celles de la paroisse. Il ne parlait que d'elle, ne vivait que pour elle. Demandez-lui s'il en réchappe combien de fois, je lui répétais. « Gapi, tu te plais trop avec les cloches. Cela te portera malheur. Les cloches, c'est comme les sirènes. Qui leur donne son âme leur livre aussi tôt ou tard son corps par-dessus le marché. » Gapi Quesseveur refusait de le croire. « N'empêche qu'à l'heure qu'il est, monsieur le recteur, sans vous, sans votre raison. C'est bon, interrompit messire Guéguin. Pour un peu à vous entendre, ce seraient les cloches qui auraient essayé de pendre le sonneur. Enfin, l'essentiel est qu'elle n'y ait pas complètement réussi. Veillez à la descente, mes braves, continua-t-il en se tournant vers les deux artisans. Ceux-ci soulevèrent Gapi, l'un par les aisselles, l'autre par les jambes, et précédés du sacristain, qui n'avait pas négligé de s'emparer de la corde, ils s'engouffrèrent avec leurs faits humains dans le noir de l'escalier. Le lecteur se disposait à s'y aventurer derrière eux, lorsqu'il avisa traînant sur le parquet une enveloppe de lettres tombée là comme un message d'en haut. Il se baissa pour la ramasser. Elle était toute constellée de pain à cacheter multicolore, et exhibait au recto, en guise de subscription, cette formulette des colliers. Celui qui ce papier trouvera, Agapi Quesseveur le rendra, et surtout point ne le lira, sinon en enfer il ira. Voilà une défense riche de promesses, se dit le vieux prêtre. Enfreignons donc là sans scrupule, malgré les foudres dont elle nous menace. Et joignant l'acte à la parole, il fit sauter les cachets. Ce qu'il trouva, ce fut une de ces médiocres images de première communion, où sont représentés des enfants bien sages et très endimanchés, s'agenouillant à la table sainte pour y recevoir l'Eucharistie. Elle était fanée, jaunie cette image, vieille déjà de près de 12 ans, mais pour subsister encore presque intacte, de quels soins pieux n'avait-elle pas dû être l'objet? Au dos, une plume maladroite avait tracé, en des caractères d'une application laborieuse, cette dédicace, à mon camarade de catéchisme, Gapi Quesseveur, souvenir de nos Pâques. Et c'était signé Jeanne-Louise Mevel du Kergoz, paroisse de Garlon, arrondissement de Morlaix, Finistère. Tiens, 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 se récria sur 3 intonations différentes le recteur. Ces 4 lignes, dans leur brève simplicité, venaient de lui en apprendre plus long que tous les radotages de cet imbécile de Jeannot. Ses regards allèrent de la petite image puérile au levier de la grosse cloche, veuf de sa corde, plongèrent à plus de 100 pieds au-dessous de lui, dans le terroir onduleux, strié de vallons, bosselé de collines dont il était le maître spirituel, s'attardèrent un moment sur les toits du Kergoz, reconnaissables dans le fouillis des verdures, à leurs cheminées blanches dorées de soleil, puis se perdirent au fond du ciel vaste, du jeune ciel velouté d'avril, tendu comme une soie immense sur les lointains resplendissants. « Vos voix, Seigneur, sont impénétrables, » murmura-t-il en inclinant sa toison de boucles grises où la tonsure luisait comme une fontaine parmi les sols. Et après avoir logé la précieuse enveloppe dans la ceinture de sa soutane, il descendit. Gapi Quesseveur fut pendant 3 semaines entre la vie et la mort. Et pendant 3 semaines, Jeanne-Louise Mevel ne bougea pour ainsi dire pas d'auprès du lit clos, où se débattait en proie à d'effrayants accès de délire, suivis d'étranges torpeurs encore plus effrayantes. Dès le samedi, sur le soir, elle s'était présentée chez Gritta la veuve. « Je viens de la part de monsieur le recteur, » avait-elle dit sans aucune explication. Et elle s'était installée à demeure au chevet de Capi. Détermination qui ne parut singulière à personne dans la bourgade, puisque cependant l'homme de Dieu l'avait inspirée, et que Pierre Mevel lui-même, loin de s'en montrer mécontent, s'y associait à sa manière en attelant tous les seconds jours son tilbury vert pomme pour aller à Morlaix quérir le docteur. Car cette fois, on n'eut point recours à la rebouteuse de Plougasnou, ni non plus aux onguents variés des matrones, conseillère habituelle de Gritta. « À d'autres mots, il faut d'autres remèdes », avait déclaré Jeanne-Louise dès l'abord avec une autorité douce mais ferme. Sur le banc dossier s'alignèrent de menus fioles aux étiquettes inintelligibles, que la jeune fille manipulait seule. Les élixirs contenus dans leurs flancs avaient-ils une vertu plus efficace que l'eau du Rolec ou celle de Saint-Laurent du Pouldour? Ce qui est sûr, c'est qu'un matin, un joli matin de mai, sentant la menthe et le chèvrefeuille, la fièvre céda. Le médecin, après un rapide coup d'œil sur le malade, qui reposait comme un enfant, annonça qu'on entrait dorénavant dans la période réparatrice. Gapi Quesseveur était sauvé. Tout Garlon, que le drame avait passionné, bien qu'il n'en soupçonnât point les vraies causes, tout Garlan poussa un soupir de soulagement comme si les destinées de la paroisse eussent été liées à celles du sonneur. Mais nulle action de grâce, n'égala en ferveur celle que Jeanne-Louise Mével entonna dans le secret de ses pensées. Le docteur n'eut pas plutôt pris congé qu'elle dit à la vieille Gritta, d'une voix qui s'efforçait de rester calme, mais où tremblotaient des sanglots, « Maintenant que votre fils est hors de danger, il est plus que temps que je m'en retourne chez nous, où les choses du ménage sont un peu à l'abandon. D'ailleurs, Gapi ne tardera pas à recouvrer son entendement, et l'avis de monsieur le recteur est que je m'éloigne avant qu'il ne regarde autour de lui, de peur que pour une raison ou pour une autre, la vue d'une étrangère dans la chambre ne lui donne une brusque émotion. Avec les malades de son espèce, il suffit d'un rien, et tout est à recommencer. Il ne faut même pas qu'il sache que je l'ai soigné, comprenez-vous ? Ne prononcez pas mon nom, la première. Il y a peut-être en lui des choses dont il n'est pas bon qu'il se souvienne trop vite. Laissez-le se chercher, se rappeler. Si alors, il s'informe de moi, mais à cette condition seulement. Vous lui remettrez, s'il vous plaît, la lettre que je m'en vais incontinent lui faire. Qu'il en soit selon votre volonté et celle de messire Guéguin, répondit avec componction l'excellente femme qui, depuis l'accident de Gapi, vénérée en l'héritière du Kergoz une incarnation de la bonté céleste, l'ange même du dévouement. La burette d'encre et la plume dont le médecin se servait pour libeller ses ordonnances étaient sur la table. Jeanne-Louise tira de la devantière de son tablier la feuille de papier à bordure bleue qu'elle s'était procurée chez l'institutrice du village, et de sa main la plus posée elle écrivit. « Ceci, Gapi Quesseveur, est pour vous donner à connaître que le lendemain du jour, où je vous fis, sans le vouloir, une peine si grande, monsieur le recteur vint au Kergoz m'apporter l'image qui est sous ce pli. S'il meurt, me dit-il, épinglez-la au mur près de votre bénitier, afin que matin et soir, elle vous fasse souvenir de prier pour son âme. S'il survit, eh bien, votre cœur vous conseillera si vous devez la garder ou la rendre. Merci à Dieu, vous survivez, Gapi. Je vous la restitue donc. Ainsi me l'a conseillé mon cœur. Mais après ce que vous avez souffert, à cause de moi, le vôtre n'aura-t-il pas changé d'intention? Selon ce qu'il vous dictera, je serai votre heureuse ou malheureuse servante. » Et elle signa en gros caractères, comme jadis au temps de leurs amours enfantines. Jeanne-Louise Mével, du Kergoz, paroisse de Garland. Un quart d'heure plus tard, après une courte visite au presbytère, elle dévalait, vive comme l'espérance, la pente caillouteuse du chemin creux que 3 semaines auparavant, Gapi Quesseveur avait gravi comme un calvaire, l'âme triste jusqu'à la mort. 5 jours passèrent, 5 jours longs comme des éternités pour l'attente angoissée de la jeune fille, 5 jours pendant lesquels tout son être flotta comme en dérive, ballotté entre la confiance et le doute. Si pourtant il n'allait plus vouloir d'elle à présent, si elle ne pouvait plus être à ses yeux qu'un objet d'horreur et d'exécration, après l'abominable péché qu'il avait failli consommer pour l'amour d'elle. À quoi Pierre Mével objectait en son verbe rude, tout pétri d'orgueil paysan. Il faudrait voir ça, par exemple, qu'un sonneur de 4 sous fût assez béné pour garder rancune à l'unique héritière du Kergoz. L'argument, loin d'apaiser les craintes de Jeanne-Louise, les exaspérait. « Ce bené-là, songeait-elle, vous a dit naguère, je ne veux pas de votre argent. Pourquoi ne me dirait-il pas aujourd'hui, je n'ai plus que faire de votre tendresse ?» Et ses affres la ressaisissaient de plus belle. À la 6e aube, elle n'y tint plus. « Il en sera ce qui sera, mais j'en aurai le cœur net. » Elle revêtit son châle à franges comme pour un pardon, ajusta sur ses cheveux lissés en bandeaux sa coiffe la plus fine dont les barbes palpitaient à ses tempes comme 2 ailes, descendit l'escalier sur ses bas pour ne donner l'éveil à personne dans la maison encore endormie, puis, ayant chaussé ses claques auprès du seuil, se dirigea d'un pas résolu vers le bourg. Elle touchait à la mi-route quand les premières notes de l'Angélus saluèrent le soleil naissant. En dévote fille de Marie, elle se mit à réciter l'Ave. Mais subitement, les versets latins se figèrent à ses lèvres. Comme le samedi de malheur où Gapi avait tenté de se périr, la sonnerie matinale, ses clairs volés à peine dispersés dans le ciel, venait presque sans transition de s'alourdir en glas. Qui donc était mort à Garland? Une idée terrible, une idée folle traversa l'esprit de Jeanne-Louise. « Seigneur Dieu, pourvu que ce ne soit pas lui !» Et il lui sembla que les coups funèbres tombant 2 par 2 lui tintaient fatidiquement aux oreilles. « C'est lui !» C'est lui. Elle essaya de courir, aiguillonnée par une soif impérieuse de savoir. Mais ses jambes se dérobaient sous elle. De faiblesse, elle dut s'appuyer au talus, le front moite, le sein battant, et voici qu'elle n'eut plus envie de rien sinon de mourir là, sur l'heure, afin que son corps fût joint à celui de Gapi, et qu'on dit d'eux, comme dans la complainte d'Isabelle le Cam, ils ont partagé la même fosse, s'ils n'ont point partagé le même lit. Un bruit de pieds nus dévalant au galop vers elle vint l'arracher à sa prostration. Elle feignit de reprendre sa marche. Du fond de la ténèbre verte, toute criblée de gouttes de lumière, une petite forme humaine pelotonnée dans son élan déboula comme un lièvre. Pour un peu, le gamin butait contre elle. Alors seulement elle reconnut Doric Mélégant, l'acolyte. D'une voix saccadée qui s'étouffait dans sa gorge, elle lui demanda à brûle-pourpoint « C'est moi que tu cherches? Gapi est mort ?» Et comme l'enfant de cœur ne disait mot, ahuri, la laine coupée, « Parle, au nom du Christ, parle !»« Gapi ! » s'exclama-t-il enfin avec un rire fendu de guingois dans sa face de pleine lune saupoudrée de taches de rousseur. « Gapi, mais c'est lui-même qui m'envoie vous dire d'arriver vite. Et il n'est pas en volonté de mourir, non, da ? Celle qui a trépassé cette nuit, c'est... » Jeanne-Louise n'en écouta pas davantage. Que lui importait qui avait trépassé, du moment que Gapi Kesver était en vie et qu'il souhaitait de la revoir. « Vous êtes bien farode pour un jour se meigner, Jeanne-Louise. » Elle répondait vaguement de la tête aux propos des commères qui la bonjournaient d'un côté à l'autre de la place. Encore qu'elle eût ralenti son pas, elle avait l'air de glisser au-dessus du sol, soulevé comme par un fluide. La porte des Kesver bâillait toute large. À l'extrémité du courtil, foisonnant d'herbes folles, où comme un blanc bouquet de mariée, le sureau déjà fleurissait, près de franchir le seuil, la fille du Kergos s'arrêta défaillante, prise d'une sorte de vertige de toute l'âme, dans l'émotion de cette minute suprême, mais avec la mystérieuse divination des malades et des amoureux, Gapi avait pressenti son approche. Il l'appela comme en songe. « Jeanne-Louise !» Elle entra. Un rayon de soleil, filtré par l'écartement des rideaux de grosses percalines qui harnissaient la fenêtre, sabrait d'une étincelante lame d'or la pénombre religieuse du logis. Des flammes roses s'allumaient de ci, de là, dans les luisons des vieux meubles. La chanson discrète d'un rouet décelait seule la présence de Grita, la veuve, dans l'angle le plus obscur de la pièce, là où s'entassaient en hiver les fagots d'ajon. De son lit, Gapi tendit la main à Jeanne-Louise, qui la pressa légèrement. Ce furent, en cet instant solennel, toutes leurs effusions. L'héritière s'assit sur le banc d'ossier où elle avait passé tant de veilles, expiait tant de remords, agitait tant de rêves. Elle n'osait attacher ses yeux sur Gapi. Lui, en revanche, l'enveloppait, la couvait tout entière du regard profond et chaud de ses prunelles pâlies. Et il y avait entre eux un silence plein de choses ineffables, une communion enchantée. Le jeune homme, à la fin, prit la parole. « Ainsi, murmura-t-il d'un ton si faible qu'on eût dit un souffle, ainsi, c'est vrai que tu consens à être mienne ?» Instinctivement et sans effort, il revenait avec elle au tutoiement de l'enfance. Elle répondit, les paupières toujours baissées, « Oui, Gapi. » Il respira longuement, puis après une pause, « Et tu n'auras pas honte de moi ?» Infirme, maléficié, plus maléficié encore peut-être qu'avant le retour des cloches. Elle dit avec une assurance tranquille et en le dévisageant bien en face cette fois. « Non, Gapi. » « Tu es une brave, Jeanne-Louise Mével, comme il y en a peu. » Et la voix vibrante d'une énergie concentrée, il continua. « Mais je peux te le dire maintenant. Grâce à toi, Jeanne-Louise, il sera aussi sain, aussi droit, oui, aussi droit, tu m'entends, que le plus fier luron de la paroisse, celui qui le soir de tes noces mènera le jabadave avec toi sur l'air abattre du Kergos. » Elle avait levé vers lui des yeux inquiets, se demandant s'il ne parlait pas encore dans le délire de la fièvre. Il pénétra son sentiment. « Tu crois que je divague ou que je débite un conte de fées. C'est pourtant la vérité vraie. Je sens bien que depuis un mois, mon corps n'est plus le même. Je suis comme si l'on m'avait mis des ressorts tout neufs, à la place des autres qui étaient cassés. Tiens, pas plus tard que la nuit dernière, j'en ai fait l'épreuve sur ce banc où te voilà. Je me suis campé tout debout. Juge de ma joie, je n'étais plus noué, j'avais les membres aussi souples qu'un poulain de chez toi. Et comment cela est-il advenu? Par toi, Jeanne-Louise, parce que j'ai voulu mourir à cause de toi. Là où j'allais chercher la mort, tu m'as fait retrouver la vie, toute la vie, Jeanne-Louise, comme au temps où je te dénichais les oiseaux dans les arbres du Kergos. Vois plutôt. » D'un mouvement brusque, il s'était dressé sur son séant, et avant que la jeune fille, stupéfaite, eût pu tenter un geste pour le retenir, il était assis auprès d'elle, sur le banc d'ossier, habillé du tricot de laine et du pantalon de bure qu'il avait lui-même tiré de l'armoire, à l'insu de Grita dans la nuit. La crise meurtrière dont il achevait de sortir victorieux l'avait en effet labouré, retourné, renouvelé, transfiguré de fond en comble. Des ruines de l'ancien Gapi, un Gapi intact avait surgi, hâve encore et décharné, mais d'aplomb, avec la mine fière d'un jeune lutteur qui viendrait de promener autour de l'arène le mouton pris du combat. Jeanne Louise, qui n'osait en croire ses yeux, lui souriait, muette, pétrifiée. Il se pencha sur elle et, la serrant contre lui d'une étreinte ardente, « Tu as fait ce miracle, douce jolie. »
« Il n'y a de miracle que de la part de Dieu, » lança du dehors par la porte ouverte une voix semi-joviale, semi-bougonnante. C'était Messire Guéguin qui, renseigné par Doric Mélégon, s'offrait à l'issue de sa messe basse le plaisir de contempler son œuvre, en surprenant ses deux catéchistes d'autrefois dans leur premier tête-à-tête de fiancés. Au prône du dimanche suivant, qui était le troisième dimanche d'avant la Pentecôte, les gens de Garland furent officiellement avertis qu'il y avait promesse de mariage entre Agapie Quesseveur du bourg et Jeanne-Louise Mével de la tenue du Kergos. Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à cette union, ajouta le recteur, selon la formule canonique, sont dans l'obligation de nous le révéler sous peine d'encourir les foudres de l'Église. Il ne se trouva pas d'empêchement valable, paraît-il, car c'est de la bouche du propre fils de Jeanne-Louise Mével et d'Agapie Quesseveur qu'ont été recueillis en terroir morlaisien les détails de cette véridique histoire.